se passe encore beaucoup de choses de l'autre côté de la frontière. On va en discuter avec notre collègue, le spécialiste en politique américaine, Raphaël Jacob. Salut Raphaël.
Salut messieurs.
On va y aller assez rondement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et beaucoup de sujets. Commençons par le fait que le président américain a quand même retweeté un gazouillis d'Élections Canada. Ça, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu ça passer et qui se disent de côté, de pourquoi. Peut-être nous résumer l'affaire un peu.
Ben, écoute, tu me poses une question. J'ai moi-même une question à laquelle j'ai pas de réponse. C'est-à-dire, comment est-ce que un tweet d'Élections Canada a pu même se retrouver dans le fil Twitter du président des États-Unis? Ça, j'aimerais ça qu'on me l'explique. Mais bon, écoute, je fais l'histoire simple. Parmi toutes les délires, les théories du complot qu'on entend depuis deux semaines du camp Trump, il y a celui selon lequel il y a une compagnie qui est à l'origine d'un système de tabulation de vote. Autrement dit, une machine qui aide à compter les votes de façon électronique, qui aurait été impliqué, mais là c'est vraiment du niaisage là, dans une erreur, OK, au niveau du comptage des votes dans un petit comté du nord du Michigan. Bon, l'erreur était humaine en fait, elle était même pas liée directement à la machine en question. Elle a été corrigée, il y a pas d'enjeu, mais c'est devenu une fausse controverse sur les médias sociaux. Et la compagnie en question, elle est d'origine canadienne. Donc les médias sociaux étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont tellement utiles pour répandre des niaiseries, ben ça fait effet boule de neige jusqu'à un point où Élections Canada s'est senti interpellé, a senti le besoin d'aller clarifier que non, Élections Canada n'a rien à voir avec cette compagnie-là et l'a jamais utilisé, a jamais utilisé ce système-là. Donc, en voyant ce tweet d'Élections Canada, Donald Trump le partage et commente, et là, je cite Trump, « ça dit tout ». Point d'exclamation en lettres majuscules. Autrement dit, selon lui, le fait qu'Élections Canada n'utilise pas ce système électronique-là, ben c'est une sorte de preuve comme quoi, effectivement...
Une fraude avec l'autre
système. On va y donner avis. C'est
ça. On va y donner avis.
C'est ça. C'est, ben, qu'on est là-dedans. C'est complètement déjanté, mais ça fait deux semaines que ça dure.
Bon, OK. Puis, factuellement, là, comment ça se passe, là, les procédures de recomptage puis les contestations? On a décroché un peu dans les derniers jours. Raph, on est rendu où là-dedans? Là?
Sais-tu pourquoi t'as décroché puis tout le monde a décroché?
Pourquoi?
Ben, c'est ridicule! C'est ridicule! Ben,
quoi que ça a été ridicule pendant 4 ans, puis ça nous intéressait pareil.
Ouais. je te dirais que c'était divertissant pendant 4 ans. Là, c'est juste con, pour vrai. Et, écoute, plus ça va, plus en fait, c'est l'équipe légale de Trump qui recule carrément, arrive devant les tribunaux, dit finalement, ben, on va passer notre tour, parce qu'il y en a pas de preuves. Et quand tu regardes, ça c'est hallucinant, là, quand tu regardes le nombre de votes qui sont contestés, dans des états comme l'Arizona, la Pennsylvanie, tu as 200 votes qui sont contestés, 500 votes qui sont contestés. Écoute, c'est des marges de dizaines de milliers de voix entre les deux candidats. C'est absurde. Donc, ça s'en va nulle part. La seule question à ce stade-ci, c'est non pas si, mais quand les résultats vont être entérinés, là, confirmés de façon officielle. Parce que là, depuis deux semaines, le camp Trump a un petit peu le beau jeu de dire « ben c'est juste des projections médiatiques pour l'instant, puis c'est pas encore officiel. » Bon, c'est une question de temps avant que ça soit, en guillemets, officiel. Et que là, ça soit pas juste des médias qui ont fait des projections, mais le collège électoral qui a certifié les résultats. Ça s'en vient d'ici un mois. La question, donc, c'est, une fois que c'est fait, c'est quoi l'autre ligne de défense? Ça va pas être une question de recomptage ou de contestation. Il y en aura plus. Fait qu'est-ce qu'à ce moment-là, on va enfin admettre la défaite ou au minimum permettre une transition qui a de l'allure pour la future administration de Joe Biden, ben, on verra. On va le voir dans un mois.
Parlant des recomptages, validation des bulletins, les républicains accusent les démocrates de fraude, mais en Géorgie, il y a de la chicane entre les républicains eux-mêmes et des pressions qui auraient été exercées pour essayer de mettre de côté certains bulletins de vote. Là.
Écoute, ça c'est hallucinant. Quand on se parle de con versus divertissant, ça c'est à la fois con et divertissant. Et en même temps, très inquiétant là, d'un point de vue démocratique, je ne veux pas sous-estimer ça. J'explique la situation rapidement. En Géorgie, on a, quand tout va être dépouillé, là, il reste encore quelques votes à compter ici et là, là. Quand tout va être dépouillé, on risque d'avoir la marge de victoire la plus courte pour un candidat. Monsieur Biden l'a gagné. Présentement, là, l'avance est un peu plus de 10 000 votes. Donc, dans les 50 États, en termes de pourcentage, ça risque d'être la marge la plus courte. Mais c'est quand même clair qu'il a gagné. Et c'est clair aussi pour Donald Trump que la raison pour laquelle il a perdu cet État-là, ben, c'est parce qu'il y a eu de la fraude massive. Et donc, ça fait deux semaines qu'on envoie des insultes, puis des attaques, puis des plaintes à l'égard des autorités électorales en Géorgie, comme quoi ben c'est une espèce de passoire pour la fraude massive, puis c'est à cause de ça que le président a perdu. Bon, le petit problème, c'est que le responsable en chef des élections en Géorgie, ben, c'est un poste élu, c'est un poste partisan. Puis devine quoi? C'est un républicain. Et ce type-là, ça fait deux semaines qu'il encaisse des coups qui, honnêtement, sont juste pas mérités et il est bon joueur dans la mesure du possible. Mais ça, ça fait son temps. Et rendu au début de cette semaine-ci, là, après presque deux semaines d'abus là, sur la place publique, le type en a eu assez. En a eu plein son casse en bon français. Et là, il a commencé à se défendre. Et il a commencé à carrément invectiver certains des lieutenants politiques de Donald Trump qui sont des membres du Congrès, des membres républicains. Et il est allé dévoiler sur la place publique qu'un sénateur, Lindsey Graham pour pas le nommer, qui n'est pas un sénateur de la Géorgie, c'est un sénateur de la Caroline du Sud, il a pas d'affaire à se mêler du comptage des voix en Géorgie, aurait fait pression sur son bureau, donc sur le bureau du responsable des élections en Géorgie, pour que certains votes ne soient pas comptés. Tu sais, on s'entend que c'est quand même grave là, au niveau des implications. Fait qu'on est là-dedans. Et ce qu'il faut aussi ajouter, messieurs, on va pouvoir s'en reparler d'ici quoi, à peu près 6-7 semaines, c'est qu'en Géorgie, on a deux courses qui sont pas réglées. La présidence est réglée, mais il y a deux sièges pour le Sénat américain.
Pour le Sénat, oui.
C'est ça, dans lesquels il va y avoir un deuxième tour. Parce que les règles électorales, encore une fois, on va pouvoir s'en reparler, mais en Géorgie, ils font en sorte que pour les courses au Sénat, quand il y a personne qui va chercher 50% plus 1, donc une majorité absolue des voix, il y a un deuxième tour. Et là, ce deuxième tour-là, il est début janvier. Et les républicains, pour garder leur majorité au Sénat, ont besoin de ces deux sièges-là. Et là, la bisbille, la chicane est poignée à l'interne dans le parti à cause de tout ça. Fait, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va se résorber d'ici au deuxième tour qui est prévu le 5 janvier prochain? C'est plein de suspense. Donc, cette élection-là, au niveau présidentiel, elle est terminée. Mais pour le contrôle du Sénat, pour la prochaine présidence, la prochaine administration, ce n'est pas terminé. Donc, ce qui se passe présentement, c'est très, très lourd de conséquences pour les deux prochaines années. Là.
Avant de te laisser, Raph, absolument que tu nous parles de l'Iran, parce que on a souvent dit que Donald Trump a été le premier président depuis longtemps à pas lancer d'attaque contre des ennemis à l'extérieur des États-Unis. Selon New York Times...
À part la Syrie, soit dit en passant, on l'oublie.
Oui, des fois, parce qu'il y en a qui arrangent ça à leur façon aussi.
Oui, c'est sûr.
Selon New York Times, Donald Trump aurait évoqué la possibilité auprès de ses conseillers d'attaquer un site nucléaire en Iran. Il aurait été dissuadé. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Puis comment tu vois la suite, les prochaines semaines là-dessus, là, sur des possibles attaques?
Ben écoute, je mettrais ça plus large que des attaques militaires. Je pense que c'est juste le comportement impulsif, peut-être la frustration du personnage. Donc, écoute, ce que je retiens, c'est que de un, en théorie, et ça, il faut toujours le rappeler, les pouvoirs du président demeurent les mêmes jusqu'au 20 janvier. C'est pas parce qu'il a été battu qu'il a moins de pouvoir, en théorie, d'ici à ce qu'il quitte ses fonctions. Donc, ses pouvoirs, présentement, on est quoi, le 18 novembre, sont les mêmes qu'ils étaient le 2 novembre, avant le vote.
Mais sa légitimité est-elle la même?
Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'utilise les mots en théorie. Parce que, en pratique, si, justement, il veut soit se défouler ou faire un power trip ou, bon, prendre une décision aussi impulsive que ça, il risque de se buter à beaucoup plus de résistance à l'intérieur même de la machine. Fait que ça, je pense que c'est aussi une grosse conclusion à tirer de toute cette affaire-là. C'est que pour ceux qui se disent, ben justement, il va faire une niaiserie ou même plusieurs d'ici à ce qu'il parte pour laisser une marque, ça sera peut-être pas dans les faits aussi facile pour lui de faire ça. T'sais, on l'a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'était détaillé dans un des livres de Bob Woodward sur la présidence Trump que il devait déjà composer avec une espèce de résistance au sein de la machine. Ça, c'était avant l'élection. D'ici à son départ, surtout dans des situations aussi littéralement explosives que ça, là, ça risque d'être encore plus le cas. Fait que je dirais que c'est nuancé. Mais écoute, on va avoir une fin de parcours qui risque de ressembler au début, c'est tout ce qu'on a depuis le début. C'est-à-dire, attelez-vous, on va avoir un show au moins jusqu'au 20 janvier. Là.
Pendant ce temps-là, Donald Trump, qui sur Twitter dit qu'il est gagnant au Michigan,
oui,
qu'il y a eu fraude électorale,
félicitations, bravo,
que c'est une grosse victoire pour le Parti républicain. Et voilà. Hey, merci Raphaël, on se reparle très bientôt. Je sens qu'on aura encore bien des choses à discuter.
Salut,
bye-bye.
Salut Raphaël Jacob, donc de la chair Raoul Dandurand. Écoute, le gars, je parle de Donald Trump, là il partage une vidéo là, du décompte en Géorgie, Floyd County, que tu vois un gars qui transporte des boîtes, puis tout ça, là, ce serait, tu sais, ça, là. Lui, il dit, regarde, on a des preuves, il n'y a pas personne qui a établi quoi que ce soit de fraude massive, globale, généralisée, qui pourrait permettre de remettre en
jeu le résultat de l'élection. Ça, c'est une affaire, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est Donald Trump. Je sais pas s'il est dans la salle en bas de la Maison-Blanche, là, dans le centre de... Tu sais, quand il dit « je vais attaquer l'Iran », t'imagines-tu la scène? quand il est avec des conseillers, peut-être des hauts gradés, où il dit qu'il va attaquer tel site nucléaire en Iran, puis j'aimerais assez ça voir ça, être témoin de ça, là.
Comme à la TV. Voir la face que ces gens-là ont, et qui regardent le calendrier, font des petits X. OK, 11h56, on va vous souhaiter une bonne heure de lunch. On écoute Trudeau Landry, on fait une pause, on revient.